degrés pour l'après-midi. On retrouve tout de suite Irma pour le mag. Bonsoir Irma, on se retrouve.
Bonsoir Faye. Alors, entendre des voix, est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est le thème de ce soir, à savoir qu'il y a 35 à 40% de la population qui ont au moins entendu une fois dans leur existence des voix, et de façon régulière à peu près 5%. Pour en parler ce soir, Martine Libertino, bonsoir.
Bonsoir.
On vous connaît bien, vous êtes venue plusieurs fois sur notre antenne, notamment pour parler de cette association qui permet aux enfants d'étudier d'une certaine façon la philosophie et surtout pour se sortir de leurs problèmes. Et vous êtes accompagné de François Lederman. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes thérapeute, philosophe et surtout président du REV, qui est le réseau d'entraide des entendeurs de voix. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir, parce que en préparant l'émission, on se dit entendeurs de voix. Alors ça, c'est carrément des schizophrènes, puisque c'est un symptôme de la schizophrénie. Apparemment, c'est absolument pas le cas.
Eh ben non. Non, c'est pas le cas, parce que entendre des voix, tout le monde, c'est une chose que tout le monde peut rencontrer une fois dans sa vie, un jour. Et excusez-moi, j'ai pas l'habitude.
Non, mais il y a aucun souci. Oui, c'est vrai que tout le monde peut entendre des voix, mais quelle est la différence entre ceux qui entendent des voix et ceux qui sont schizophrènes?
Alors, je crois que c'est deux univers qui se rencontrent pas du tout, parce que la schizophrénie est une chose que je ne connais pas très bien, qu'on ne sait pas trop bien non plus définir. On remet beaucoup de choses dans ce terme. Entendre des voix, c'est vraiment une manifestation du langage intérieur qui nous donne l'impression qu'on entend des voix. Mais qu'on ait un trouble psychique ou pas, c'est pas une obligation.
Et ceux qui sont schizophrènes n'entendent pas forcément des voix.
Alors non.
Et il y a aussi les hallucinations qu'on peut définir. Comment est-ce qu'on pourrait définir les hallucinations, Martine Libertino?
Alors, en règle générale, ces hallucinations sont définies comme des choses négatives, comme des choses qui font peur.
Est-ce que je peux juste vous demander de vous rapprocher du micro?
Mais ce qu'il faut considérer comme des hallucinations, dans notre société, ce sont justement peut-être des images, hein, ou des paroles qu'une personne veut entendre et qui va lui faire peur. C'est comme ça qu'on considère une hallucination actuellement.
Hein. Et c'est quelque chose qui lui fait peur, mais c'est pas forcément au niveau d'une voix. Ça peut être au niveau visuel aussi. Ça peut être au niveau tactile.
Donc la personne va expliquer qu'elle voit certaines choses, qu'elle entend des voix qui lui parlent, et en général, elle en a peur. Alors maintenant, il faut peut-être se poser la question, pourquoi elle en a peur, hein? Déjà, la première réponse que je pourrais donner, c'est qu'elle en a peur parce que personne ne parle de ce genre de phénomène, et c'est un phénomène qui est considéré comme quelque chose qui est hors du commun, en fait. Donc la personne, déjà, va se sentir à l'écart, va se sentir différente des autres. Au fond, qu'elle voit quelque chose qui soit positif ou qu'elle voit quelque chose qui soit négatif, elle va avoir beaucoup de mal à en parler, elle va garder ça pour elle. Et évidemment que si, en plus, elle voit des choses négatives, ou elle entend des phrases négatives, elle va d'autant plus se sentir perturbée.
Alors, on va pouvoir parler avec précision de ce qui se passe, justement, quand on entend des voix, et quels sont les genres de voix qu'on peut entendre, et qui est susceptible d'entendre des voix. Mais apparemment, ça peut être un phénomène qui est inné au départ. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu des voix, vous? Parce qu'on a dit que ça arrive au moins une fois dans sa vie à 35 à 40% de la population. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des voix?
Ça m'est arrivé, oui.
Oui. Plusieurs fois?
Quand j'étais enfant, oui, ça arrivait plusieurs fois. Oui.
Et comment vous avez réagi?
Très bien, parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose de normal. Ça m'a jamais inquiété au fond, ni d'entendre des voix, ni d'avoir des visions, de voir des choses qui ne sont pas dans le concret, je veux dire.
Et vous, Martine Libertino, vous avez déjà entendu des voix?
Moi, depuis ma plus tendre enfance, oui.
Et vous continuez à en entendre?
Mais je vis avec, et avec grand bonheur.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les voix qu'on entend qui peuvent être inquiétantes et celles qu'on entend et qui sont plutôt positives, alors qu'on peut associer même aux intuitions, non?
Écoutez, moi je crois que pour une seule et même personne, cette personne peut avoir des périodes dans sa vie si elle a cette sensibilité-là. Parce qu'au fond, ça veut dire quoi entendre des voix? Ça veut dire simplement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, peut-être plus qu'une autre personne. Hein. Donc, il suffit qu'une personne soit dans une période période de sa vie où elle est heureuse, où tout va bien, elle ne va pas forcément entendre des voix négatives. C'est là où il faut peut-être se poser la question, finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain? Comment se fait-il que lorsque nous sommes heureux, il ne se passe rien qui nous fait peur? Et pourquoi, lorsque nous sommes dans une période difficile de notre vie, on va entendre des choses, on va imaginer des situations qui vont amplifier notre peur et qu'on va considérer peut-être comme des hallucinations, parce que plus la situation se répète, plus on va avoir peur d'avoir peur, et c'est à ce moment-là que le risque est grand pour une personne d'avoir ce genre de problème qui peuvent l'amener à la dépression.
Mm-hmm. François Lederman, je l'ai dit, vous êtes président de l'association Rêve, qui est le réseau d'entraide des entendeurs de voix. Alors, ça paraît complètement nouveau, mais même si cette association existe depuis 2001, c'est un phénomène qui a été pris en compte déjà depuis une quinzaine d'années.
Oui, dans les pays anglo-saxons et dans l'Europe du Nord, plutôt.
Mm-hmm. Comment ça a commencé ?
Ça a commencé... Bon,
il y a une prise de conscience ?
Oui, il y a une prise de conscience autour de demandes thérapeutiques à travers les hôpitaux psychiatriques et des personnes qui avaient des recherches par rapport à savoir comment en fait vivre avec ce trouble qui pouvait être passager ou qui s'était installé chez eux. Et puis, il y a une quinzaine d'années, il y a un professeur hollandais qui a pris en charge des patients par rapport à ça. Notamment la demande d'une patiente, ils ont fait un travail ensemble et s'est rendu compte que c'était pas forcément en fait des troubles psychiques proprement parlés, mais que ça pouvait être des périodes de l'existence dues à un surmenage, un stress, à toutes sortes de choses, et qu'il fallait pouvoir trouver une solution différente que l'application de traitements qui sont relativement lourds.
Mais alors vous, avec cette association, quel est le but que vous avez eu envie d'atteindre?
Alors notre but, nous, c'était en premier lieu, c'était de faire du bruit pour faire connaître un peu ce phénomène dans la société. Aussi, c'était de créer un groupe de parole pour permettre aux gens qui ont des voix de se retrouver ensemble et pour pouvoir échanger entre eux et retrouver une socialisation, se re-socialiser à travers un groupe de parole, ce qui est extrêmement important. Mm-hmm. Qu'ils ne soient pas dans le cadre des institutions ou dans les cadres médicaux, etc. Vraiment quelque chose d'extérieur qui soit... dans la collectivité, enfin dans la cité.
Mais qui sont ceux qui font appel à vous ?
Alors, ce sont souvent des personnes bon qui entendent des voix, mais qui ont souvent un passé psychiatrique assez lourd et qui sont en quête de solutions d'une part. D'autre part, il y a souvent aussi des parents d'enfants, des parents en fait d'entendeurs de voix. Il y a des proches aussi qui voudraient savoir un peu mieux connaître ce phénomène, savoir comment en vivre avec, hein, des gens qui entendent des voix. Et puis il y a aussi des professionnels de la santé, aussi bien que du monde social qui viennent de temps en temps.
Voilà. Et alors, c'est important pour vous aussi de pouvoir faire une collaboration avec les institutions et ainsi qu'avec les associations qui ont un lien avec les politiques.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je crois que nous sommes une écoute dans une certaine forme de présent. Il y a qu'une association, elle est au centre d'une société à l'écoute de phénomènes qui ne sont pas forcément pris en considération par les institutions, et que nous sommes là d'une espèce de révélateur de souffrance, ce qui soit en fait commence à s'exprimer par le fait de l'évolution de l'homme ou induite par des comportements sociaux qui sont de plus en plus difficiles à vivre. Ça, c'est une chose. Et nous sommes donc dans ce souci de faire parler de ces problématiques qui se révèlent pour pouvoir faire prendre conscience aux institutions, mais aussi aux politiques. Alors, les institutions ont comme belle idée, on en a certainement déjà eu bien conscience, mais nous permettent, nous avons d'autres regards et nous sommes peut-être porteurs d'un message différent puisque nous écoutons les individus parler de leur souffrance de façon qui ne soit pas contenue par les institutions. Vous voyez, ils viennent chez nous, ils ont la liberté de dire des choses qu'ils ne diraient pas face à une blouse blanche médicale.
Mmh. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous faire prendre conscience de ce qu'est justement entendre des voix, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Qui sont ces personnes qui entendent des voix ? Qui sont ces personnes qui entendent des voix ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Restez à l'écoute, on va vous donner plus d'informations. Backstreet Mixer.
Last Train to London, Electric Light Orchestra, et on retrouve Irma Danone pour le mag.
Alors après la musique qu'on entend, eh bien on s'occupe de ce sujet qui nous touche peut-être tous, on l'a dit, 35 à 40% de la population qui au moins une fois dans sa vie a entendu des voix. Alors entendre des voix, est-ce qu'il faut en avoir peur? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Prochainement, au mois de mars, le 13 lundi, il va y avoir une conférence à ce sujet avec notamment des psychiatres, psychothérapeutes qui travaillent sur la question, qui pourront être là pour répondre à des questions. Et ce soir, on est en compagnie, on l'a dit, de François Lederman. Vous êtes thérapeute, philosophe, mais aussi président du REV, qui est le réseau d'entraide des entendeurs de voix, ainsi que Martine Libertino. Alors j'aimerais qu'on redéfinisse assez précisément qui sont ces gens qui sont susceptibles d'entendre des voix, puisque ça peut nous arriver à tous. Quels sont ces moments sur lesquels il faut être vigilant et ne pas dramatiser forcément cette situation qu'est entendre les voix? Martine Libertino.
Alors, tout d'abord, je pense que chaque personne a en elle une voix qui peut lui parler. Seulement, selon la sensibilité de cette personne, et en particulier de ce jeune, de cet enfant, ces voix pourront être ressenties d'une manière, je dirais, plus ou moins forte. Bon, déjà, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ça veut dire que nous sommes tous sujets à ce genre de situation. Bon, je peux vous donner le témoignage évidemment de mes 25 ans de thérapie, on peut définir chez certaines personnalités une sensibilité plus grande que certaines autres personnalités. Certains enfants ont un côté émotionnel beaucoup plus fort, et c'est vrai que ces enfants-là vont être sujets beaucoup plus à non pas entendre des voix mais à les écouter, si je puis dire. Et la différence. Bon, alors maintenant il va falloir cerner un petit peu la situation de cet enfant. C'est que si cet enfant a par ailleurs des difficultés émotionnelles de par sa famille, de par peut-être une écoute difficile de son entourage, de par des problèmes de communication qui vont faire qu'il ne sera pas forcément écouté, donc il ne va pas pouvoir se confier, c'est un enfant qui peut-être aussi sera responsable de son entourage, donc il va se faire beaucoup de soucis.
Donc il y a vraiment les deux aspects. Il y a des enfants qui sont un peu négligés de la part des parents, qui peuvent développer ce genre de symptômes, et il y a ceux qui sont un petit peu trop justement couvés par les parents. C'est ce que vous avez remarqué?
Bon, ce que j'ai remarqué, là, on parle un petit peu de notre société actuelle, c'est qu'effectivement, je dirais que pour que des enfants aient des problèmes, il va falloir que ces enfants soient dans deux extrêmes. Hein. Mais bon, on arrive au même résultat finalement. C'est que effectivement, si un enfant est négligé par ses parents, ou que la vie amène ses parents à le négliger, non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce que bon, la situation est ainsi, cet enfant va développer des programmations émotionnelles qui vont le faire souffrir et qui vont augmenter ses peurs. Mmh. Dans un autre cas, si un enfant est, je dirais, trop protégé par ses parents, il va falloir peut-être se poser la question pourquoi ses parents surprotègent cet enfant, et on va se rendre compte qu'on ne surprotège pas un enfant parce qu'on l'aime, on le surprotège parce qu'on a peur pour lui. Hein. Ce qui veut dire que cet enfant ne va pas être écouté du fait que ses parents ont peur, on ne va pas être attentif à ses besoins, à son besoin d'autonomie, à sa personnalité, et à ce moment-là, il est vrai que cet enfant ne pourra pas se développer harmonieusement, mais en même temps, du fait de cette surprotection de ses parents qui vont hésiter à le guider, qui vont hésiter à lui donner à certains moments, à être ferme vis-à-vis de lui, cet enfant va développer d'une part une vulnérabilité, parce qu'un enfant qui est surprotégé, c'est clair qu'il développe des peurs également, mais d'autre part, il va développer, une attache trop grande à sa liberté, donc une forme d'égoïsme.
Mais Martine Libertino, pour les parents qui nous entendent, voire même les enfants, concrètement, il y a des parents qui ont l'impression d'être à l'écoute de leurs enfants et qui peuvent se rendre compte que des enfants ont des problèmes, ou tout d'un coup ont l'impression de voir quelque chose, d'entendre des voix, d'avoir un ami imaginaire. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, bon, dans le cas d'une situation où des parents viendraient me voir avec un enfant qui...
Mais
qui...
là, ça sous-entend déjà qu'il y a la démarche d'aller voir un thérapeute. Mais moi, je parle de l'action même, oui, d'un parent qui se rend compte qu'un enfant entend des voix. C'est lui dire, qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que t'as vu? C'est pas bien? C'est n'importe
Alors,
quoi?
Alors, ouvrir un dialogue, c'est... absolument. Ça, c'est déjà très important. C'est que si... là, de nouveau, on est dans les deux extrêmes. Si les parents négligent l'enfant en disant, ben oui, bon, t'entends des voix, c'est des histoires, l'enfant va de nouveau se replier sur lui-même, ne va pas se sentir entendu. Et si en plus ces voix lui font peur, il va d'autant plus souffrir. Bon, en se disant qu'il est différent des autres et en se sentant justement mis à l'écart. D'autre part, c'est vrai que l'enfant a besoin de pouvoir parler, surtout si ses voix lui font peur, surtout si ses images lui font peur. Il a besoin d'en parler, il a besoin d'être rassuré. Donc, ce que les parents doivent faire à ce moment-là, c'est tout de suite le prendre au sérieux. C'est lui poser des questions sans rigoler parce qu'il entend des Évidemment. Choses qui ne sont pas crédibles, hein. Prendre très au sérieux ce qu'il va dire et partir du principe que s'il raconte ce qu'il voit, ça ne veut pas dire qu'il fabule, ça ne veut pas dire qu'il invente des situations, mais même s'il les invente dans son imagination, il est très important qu'il le prenne au sérieux et qu'il puisse discuter avec lui et le rassurer d'abord.
Vous vous êtes rendu compte que s'il n'y a pas une prise de conscience à l'état d'enfant, voire même à l'adolescence, c'est quelque chose qui ressort à l'âge adulte, François Lederman.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez remarqué chez les adultes comme symptômes spécifiques? Quelles sont les complaintes? C'est des gens qui sont traités chez des thérapeutes?
Oui, il y a des gens qui sont traités chez des thérapeutes. Il y en a qui... On a eu toutes sortes de personnes qui viennent en fait à notre groupe de parole. Il y a des gens qui sont suivis psychiatriquement, médicalement, par des thérapeutes. Beaucoup de gens vont consulter des tas de possibilités, tous azimuts, exorcismes, tout y passe, quoi. Je crois qu'il y a vraiment une recherche. Et moi, ce que j'observe, c'est quelque chose de très curieux. Et je crois qu'il y a une chose qu'on devrait revendiquer beaucoup plus, c'est l'imperfection dans notre société. Il y a quelque temps, il y avait un affichage dans la rue où on pouvait lire « La perfection est dans la nature ». Et je crois que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, parce que c'est un peu un leurre pour moi. Et dans les situations du développement de la personnalité dans l'enfance, il y a toujours des troubles qui s'inscrivent. Je crois que les parents font des fois ce qu'ils peuvent au mieux de leur conscience. Mais
quoi qu'ils fassent, de toute façon...
On peut pas éviter des dérapages, on peut pas éviter des troubles émotionnels, on peut pas éviter certaines situations qui peuvent être traumatisantes suivant l'émotivité et la sensibilité de l'enfant, et ça va être plus ou moins difficile à vivre par la suite. C'est toutes ces choses qui ressortent. Et souvent, ce que j'entends dans les témoignages des voix, quand on a pratiquement une gomme de parole, c'est des choses qui se rapportent vraiment à ce genre de...
Est-ce que vous avez retrouvé un point commun, un lien commun entre le genre de voix qui est entendu? Est-ce qu'il y a quelque chose, des voix spécifiques qui reviennent chez différents individus, ou c'est vraiment propre à son histoire personnelle?
Alors, c'est très personnel. C'est vraiment quelque chose.
Il n'y a pas de similitude.
Non. Et ça concerne toujours l'individu. Donc c'est quelque chose qui lui est singulier. Et on peut pas, il n'y a pas des voix qui seront généralisantes en disant, voilà, toute personne qui a ce genre de caractéristiques, blâme.
Et quel genre de voix? Est-ce que c'est des voix qui poussent à commettre des actes des crimes? Ou c'est des voix qui vous empêchent d'avancer dans la vie? Enfin, est-ce qu'il y a des catégories de voix?
Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux types de voix. Il y a celles qui sont des voix dures, c'est-à-dire d'injonctions négatives, et puis des voix qui sont peut-être beaucoup plus d'injonctions positives et qui porteront plus à la construction, à développer un rapport comme une sorte de muse qui vous parle à l'oreille. Et c'est deux choses totalement, c'est deux aspects très différents, mais c'est aussi deux relations, si vous voulez, peut-être de qualité émotionnelle différente. Quand on peut pas non plus stigmatiser les voix dures, c'est-à-dire c'est de nouveau très personnel et c'est toujours en lien avec l'individu et sa problématique.
Alors, il y a des traitements. Martine Libertineau, vous l'avez dit plusieurs fois, quand vous recevez des patients, souvent ce sont des patients qui ont été suivis par d'autres thérapeutes. Et vous pointez quand même du doigt passablement les thérapeutes qui ont tendance à créer une certaine dépendance chez le patient, voire même à les surmédicamenter, on dit comme ça. Voilà. Et donc, votre objectif, c'est vraiment de ressortir de ça. Est-ce qu'on peut faire réellement une généralité?
On ne peut jamais faire de généralité. C'est pour ça que parlons de certains thérapeutes et ne parlons pas de tous les thérapeutes.
Ça revient quand même, une grande partie de vos patients sont des gens qui sont passés par des thérapeutes avec qui ça n'a pas fonctionné.
Ils sont passés chez des psychiatres, chez des psychothérapeutes, appelons-les par leur nom. Hein. De notre côté, je rencontre actuellement des psychothérapeutes ou des psychiatres qui sont prêts à dialoguer et qui ne sont pas pour les médicaments.
Voilà. Avec qui vous collaborez d'ailleurs.
Avec qui je collabore, voilà. Maintenant, je crois que ce qu'il faudrait peut-être, c'est essayer essayer d'aider, hein, mm-hmm. et d'aider les gens. Si une personne, prenons le cas d'une personne qui a des hallucinations, comment l'aider à sortir de son problème et comment l'aider à comprendre son problème? Mm-hmm. Alors déjà, ce qu'elle va devoir comprendre, c'est que elle a en elle un subconscient. Et finalement, pour moi, c'est ça, c'est que cette personne va développer des hallucinations à travers son subconscient. Son subconscient, c'est finalement, les problèmes émotionnels qu'elle va avoir. Bon. Mais ce qu'il va falloir expliquer à cette personne, c'est qu'au fond, elle est plus forte que son subconscient. Parce que ce que je vois chez tous ces patients qui viennent me voir, que ce soit des jeunes ou que ce soit des adultes, ils arrivent chez moi avec une panique terrible, dans ce sens que ils ont l'impression d'avoir des voix qui les conduisent, d'avoir des voix qui les gouvernent. Bon, je parle évidemment de ceux qui ont mm-hmm. ce que Monsieur Lederman appelait des voix négatives, hein. Mais même si on parle de voix positives, ce sont souvent des voix euphorisantes. Donc elles sont aussi, on est dans les deux extrêmes négatifs finalement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est des gens qui sont réellement dans une souffrance. Et des médicaments, ça soulage cette souffrance parce que ça leur permet de ne plus entendre ces voix. Pourquoi vous êtes si contre?
Alors, si d'abord, bon, soyons peut-être un peu plus, je dirais un peu plus subtils. Je ne suis pas contre. Je suis contre le fait que on donne des médicaments comme source de guérison.
Mmh, voilà. Sans chercher la cause.
Dans ce sens que le médicament peut pendant un certain temps atténuer une souffrance ou accompagner un patient, mais ce n'est pas une fin en soi. Et lorsqu'un patient vient chez moi, je ne lui dis pas je veux que vous arrêtiez au médicament, je lui dis j'aimerais travailler avec votre psychiatre pour que les médicaments puissent petit à petit s'enlever au fur et à mesure que nous faisons un travail ensemble. Mmh. Bon. Et ce que je vais apprendre aux
c'est passion
C'est passion.